C'est pas vrai que les formes d'agriculture alternative qui minimisent les intrants sont plus chères. Aujourd'hui, les agriculteurs nous montrent qu'il y a des surcoûts de santé et ça on le paye. Donc vous achetez vos carottes pas chères, mais après l'eau potable est plus chère et la vie est moins longue et plus chère parce que vous finissez à soigner un cancer.
Leur chant du cœur à propos de la sécurité sociale de l'alimentation. Le 24 novembre 2025 s'est tenue une soirée autour de la sécurité sociale d'alimentation, c'est-à-dire de l'alimentation saine à portée de tous, à Fort-Calquier, à la salle Pierre-Michel, avec d'une part la projection d'un film, Leur chant du cœur, d'autre part un débat avec des professionnels, des paysans, paysannes et aussi des gens impliqués dans, enfin professionnels et solidaires, on peut dire impliqués dans par exemple le secours populaire. Alors ce film, il est très intéressant parce que son fil conducteur est bien résumé par la personne qu'on a entendue juste en introduction de cette émission, Marc-André Sellos, qui est un botaniste au Muséum d'Histoire Naturelle, très compétent, et qui résume bien la problématique. C'est-à-dire qu'une alimentation qui paraît pas chère comme ça, eh bien, un coût induit qui est très important, notamment au niveau de la santé. Et globalement, il vaut mieux une alimentation qui a l'air d'être plus chère parce qu'elle est produite avec plus de main-d'œuvre, elle est produite avec plus de temps, de précautions, et elle prend les choses de manière aussi articulée avec l'environnement. Et donc, ça peut paraître plus cher, sauf qu'au niveau de la société, ben non. Donc c'est ça qu'il faut bien regarder en face. Alors ce film se traduit bien cela à travers la douzaine de paysans paysannes qui sont interviewés. Et on va écouter maintenant le débat qui a eu lieu après le film avec des producteurs, productrices et puis des gens impliqués aussi dans l'organisation de la consommation, notamment pour les plus pauvres. Alors on donne la parole à Carole Battisti qui est celle qui a animé le débat. Et c'est pour la première partie. On écoutera une deuxième partie ensuite, puisque ça a duré quand même une bonne heure et demie, l'ensemble de la soirée après le film.
...de paysans, mais aussi les difficultés auxquelles ils sont confrontés, en particulier cette injonction contradictoire qui consiste à produire une alimentation saine, qui respecte le vivant et à des coûts toujours de plus en plus bas. Voilà. Le film aborde des quantités de sujets, il est absolument passionnant, mais nous, groupe Sécurité sociale de l'alimentation de Fort-Calquier en construction, nous avons choisi de nous focaliser sur trois questions. La première, c'est les conditions d'une alimentation saine, mais accessible à tous. Et deuxième question, rémunératrice pour les agriculteurs, bien sûr. Et enfin, nous aurions voulu finir par une discussion autour de la faisabilité de la sécurité sociale de l'alimentation et sur le fait qu'elle pourrait, parmi d'autres solutions bien sûr, mais être un levier pour atteindre les deux objectifs énoncés, à savoir la production d'une alimentation saine, accessible à tous et une rémunération correcte pour les agriculteurs. Alors, comme on a un timing qui est un petit peu serré, sinon on va rester là jusqu'à minuit et je crains que tout le monde s'en aille, je vais demander aux invités qui sont ici et qui vont nous aider en fait à construire, j'allais dire, et nos connaissances et avoir aussi des écueils, bien sûr, et la situation de l'agriculture, en particulier dans le département, de bien vouloir, lorsque je les invite à venir nous éclairer sur une question, vous venez vous asseoir là sur l'estrade et puis vous vous présentez de manière très, très brève. Voilà, pour qu'on ne passe pas trop de temps là-dessus, on n'a pas le temps de faire une table ronde, une présentation générale, je veux dire. Voilà, alors, donc, la première question qu'on voulait traiter, c'était en fait celle de un petit point, en fait, sur la situation des terres agricoles et des agriculteurs dans le 04. Est-ce que finalement c'est comparable à ce qu'on peut voir dans le film ? Quelles sont les spécificités du 04 ? Voilà, et nous aider à avoir une petite vision d'ensemble. Et là, je vais demander à Éric Jean, d'Agribio, de venir prendre la parole.
Bonjour à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir. Ça fait chaud au cœur. Bon, comme on dit, les gens qui viennent là sont déjà convaincus, mais c'est déjà bien de voir du monde. Merci. Voilà, je suis administrateur d'Agribio, l'association des agriculteurs biologiques du 04, et également cofondateur d'Univers Paysan, le point de vente qui est créé à Fort-Calquier depuis 2011. L'agriculture bio dans le département représente un tiers du territoire en hectares de la SAU, 34%. Il y a à peu près 600 agriculteurs qui sont en bio ou certains en conversion. Par rapport aux cultures, là, ma question c'était par rapport à ce qu'on faisait dans le 04. Et dans le 04, on a la chance d'avoir presque tout. Pour ceux qui fréquentent divers paysans, c'est vrai qu'on peut tout produire dans le 04. On a des vallées, on a des montagnes, on a des plateaux. Voilà, on peut produire vraiment beaucoup de choses. Et c'est pour ça que les points de vente collectifs sont aussi nombreux dans le 04. Alors, je ne sais plus combien d'années, mais si on en est à 6, 7, je ne sais plus combien. Voilà, ce film est vraiment très, très, très intéressant. Il y a plein de sujets, et voilà, mais il faudrait en discuter jusqu'à 2 heures du matin. Les produits sont sur le marché. L'installation des jeunes, il y a des jeunes qui s'installent. Après, il faut qu'ils trouvent leur débouché. Et ça fait partie d'un sujet politique. Puisque, voilà, et sauf que nous, notre politique régionale, malheureusement, n'a pas fait le choix d'accompagner ou de maintenir la prime maintien à l'agriculture biologique. Donc il y a une aide pour l'installation, pour la conversion. Mais après, il n'y a plus d'aide. Alors que l'Occitanie, qui est juste à côté, là, de l'autre côté du Rhône, eux, politiquement, ont fait la démarche d'accompagner, de maintenir l'agriculture biologique. Donc une aide au maintien. La région, PACA, a pensé qu'au bout de 2 ans, vous êtes agriculteur biologique et vous allez pouvoir vendre vos produits sans souci. C'est pas bien le cas. Là, c'est très bien dit dans le film, mais il y en a qui ont mis un certain temps à trouver des marchés, à trouver, déjà à travailler et à s'équiper, gagner pas beaucoup d'argent ou pas du tout, le peu qu'ils gagnaient, investir pour se mécaniser. Ou... Voilà. Donc, nous, il n'y a plus d'aide au maintien. Il y a quand même des jeunes qui s'installent. Moi, je suis très content, puisque, je me suis présenté quand même, je suis paysan bio depuis 25 ans. Et c'est vrai qu'il y a 25 ans, pour ne pas être un rigolo, il faut être certifié. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'installent en bio, avec une philosophie bio, mais qui ne veulent pas le AB, parce qu'il faut payer. Et ça, c'est compliqué aussi à faire comprendre aux gens que pour avoir le AB, il faut payer pour produire sain. Alors que les conventionnels qui polluent, on ne leur demande rien. Et ils touchent plus d'argent. La ferme municipale, je n'ai plus le département, mais nous, proches, on va dire dans la région PACA, il faut vous regarder le site de Mont-en-Sartou, qui est assez réputé pour ça. Et il y a une régie municipale, et en fait, l'école primaire, l'école de la commune, est nourrie, toutes les écoles, est nourrie par des agriculteurs, des maraîchers, en régie, avec la mairie. C'est la mairie qui a. Voilà, c'est une régie qui est gérée en régie. Je vais y arriver. Oui. Donc, je pense que des produits, il y en a. Après, c'est le coût. Et ça, c'est un large débat, parce que de toute façon, pour ramasser des carottes, pas pour les ramasser, mais déjà pour les faire pousser, par rapport à les désherber, par rapport à l'entretien qu'il faut faire manuellement. Parce que des carottes, si on ne fait pas avec la main, c'est compliqué quand même.
Merci. On va peut-être passer à la question suivante, qui est donc celle d'une production alimentaire saine et accessible à tous. Là, je vais demander à Elorie Blot de venir, ainsi qu'à Florian Jean. Est-ce qu'il y a quelqu'un du Secours Populaire dans la salle ? Oui. Est-ce que cette personne voudrait venir prendre la parole, s'il vous plaît ? Parce qu'il nous faut des producteurs, mais il nous faut des mangeurs aussi. Et la question de, l'accessibilité, je pense que vous pouvez nous aider à y voir un petit peu clair. Hein, voilà. Merci. Alors, merci de vous présenter, hein, chacun très brièvement.
Les dames d'abord.
Les dames d'abord, ok. Donc, je suis Nathalie Baudez et donc je suis la référente du Secours populaire à Fort-Calquier. L'antenne est créée depuis peu, on existe depuis 2 ans. Voilà.
Florian Jean, paysan éleveur sur Pierre-Rue, installé depuis 2018 sur la ferme familiale.
Et Laurie, je travaille avec Lise Angela au Petit Champ à Fort-Calquier, maraîcher, légumes, bio, labellisé.
Ok, donc moi ce que je peux dire sur les gens qui consomment et qui mangent, nous on aide sur Fort-Calquier maintenant 100 de personnes, donc on leur distribue des colis alimentaires tous les 15 jours. La nourriture vient du Fonds d'aide européen donc, et aussi de certaines conventions qu'on peut avoir avec les hypermarchés. Donc la nourriture n'est pas forcément celle qu'on aimerait donner. On préférerait avoir des produits sains, des produits locaux. On est ouvert. C'est vrai que nous, le Secours populaire, on peut aussi acheter parce qu'on a de l'argent. On ne dépend pas uniquement des subventions. Donc on est prêt à acheter à des prix peut-être négociés. Mais donc on est prêt à travailler avec des producteurs locaux et à voir ce qu'on pourrait faire avec eux.
Alors, les producteurs locaux. La question, c'était donc, qu'est-ce que c'est finalement une alimentation saine et accessible ? Comment est-ce que vous pourriez vous situer par rapport à cet objectif, en fait, de faire manger tout le monde bien et à la portée de leur bourse, hein ? Est-ce que vous avez déjà participé à des actions en fait où votre production s'adresse en fait à des gens qui ne sont pas des catégories sociales favorisées ou moyennes ? Comment est-ce qu'on peut faire ?
Je pense que la réponse elle était un peu dans le film. Je pense que nous s'adapter et descendre nos prix, je pense qu'on ne peut pas. On devrait que les augmenter. Et la réalité, je pense que c'est qu'il faut que les gens prennent une part de leurs revenus plus importante pour leur nourriture, tout simplement. Ouais. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, les éleveurs, nous, pour notre partie, hein, c'est quand même la PAC qui est la moitié de notre chiffre d'affaires sur l'exploitation. Et on n'en est pas forcément fiers parce que ça veut dire que ce n'est pas notre travail qui paye. Donc, nourrir sain, c'est ce qu'on essaye de faire. Nourrir pas cher, je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver.
C'est un peu court. On parle d'une accessibilité à une alimentation pour tous. On essaie de faire des trucs. Alors concrètement, on peut demander aux municipalités de prendre en charge en fait un tiers d'un panier qui coûte sur 20 euros par exemple, et puis la municipalité prendrait en charge les 2/3 d'un panier et le tiers restant serait à la charge du consommateur ou alors d'une association telle que la vôtre par exemple. Ça c'est un exemple concret qu'on pourrait mettre en place. Et puis après on va parler de facteurs à l'accessibilité parce que on l'a dit tout à l'heure, ici il y a quasiment que des gens qui sont convaincus. Qui prennent une part de leur portefeuille et qui vont décider d'aller acheter des légumes ou de la viande ou des céréales, etc., qui sont bons et saines. Moi, j'habite au HLM. Et les gens qui habitent au HLM, c'est pas pareil pour eux. Et puis, pour plein d'autres gens aussi, c'est pas pareil. Et en fait, dans une accessibilité à une alimentation saine, il va y avoir le temps de travail qu'on a dans une journée. Il va y avoir les gamins dont il faut s'occuper pour faire leurs devoirs, si tant est qu'on a de la chance de les accompagner pour faire leurs devoirs. Et puis après, il va falloir encore cuisiner derrière. Donc il y a le facteur temps. En fait, il y a plein. Effectivement, on pourrait passer jusqu'à 2 heures. Donc, comme tu disais tout à l'heure, ce qui est compliqué pour nous agriculteurs, c'est qu'on a aussi des charges qui augmentent. Donc, exemple, le terreau, là, il prend une charge chaque année, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Puis pour le consommateur, eh ben, quand on vend de la betterave, la botte de betterave, ben, elle est chère. Ben non, elle n'est pas chère. Mais bon, voilà. Enfin, vous voyez, je vous dis plein de trucs. Ça fait patchwork. L'accessibilité, c'est inscrit aussi au code des familles. C'est inscrit dans les textes de loi. Voilà. Comme quoi, tout le monde a le droit à une alimentation. Alors, c'est dit sûr, pas saine, ni biologique, mais sûre et de qualité. C'est inscrit au code des familles. Donc là, on peut s'adresser par exemple à des centres sociaux, on peut s'adresser à la maison départementale de la solidarité, on peut s'adresser au centre communal d'action sociale, etc. etc. Avec Lise Angela, ce qu'on a essayé de faire, c'est de travailler avec une mairie et plusieurs mairies, où moi-même, j'ai même demandé au centre social de Fort-Calquier, j'ai dit, voilà, on pourrait faire un plan d'alimentation territoriale, c'est super bien, il y a plein d'argent qui viennent de l'Europe. C'est pas que pour la PAC, mais c'est génial, on peut faire plein de trucs. La réponse du centre social, ça a été quand même, bah, si tu veux faire le dossier de demande de subvention, bah, tu peux le faire. Pardon, je le dis, mais parce que nous, agriculteurs, on peut proposer des choses, on propose des choses au-delà aussi du travail qu'on fait, mais c'est que derrière, il faut aussi, on parle de volonté politique, bah, là, il faut y aller. Mais nous, on peut plus faire. Enfin, on ne peut pas tout faire. Une dernière chose, pour ne pas monopoliser la parole, je pense à une ville comme Détroit. La ville de Détroit aux États-Unis qui a connu fin 2010-2011 une désertification industrielle, bref, les gens ils se sont barrés, la ville s'est complètement surendettée, l'hôpital, la ville n'arrivait même plus à nourrir avec de l'alimentation de merde leurs soignants, et ce qui s'est passé c'est que les habitants, eh ben, en fait, ils sont organisés entre eux. Et puis, ils sont remis à cultiver, mais cultiver, à faire des jardins potagers sur 4, 5, 6 hectares. Alors, vous direz, ouais, c'est con, parce qu'on est obligé d'aller, en fait, dans un truc qui est triste. Là, on y est, un petit peu, ce que disait le professeur tout à l'heure, ou d'autres, c'est que, est-ce qu'il faut attendre qu'on soit complètement comme ça, pour qu'il y ait une éveil des consciences et de se dire qu'en fait, il faut revenir absolument au local. Local. Il faut revenir au local. Il faut arrêter de manger des produits qui viennent d'un autre pays, etc., qui soient bio. Parce qu'en plus, on parle de produits qui sont bio d'autres pays, mais il faut savoir que la réglementation n'est pas la même. Bon, voilà. Je sais pas.
Moi, j'aurais encore une question à poser à la dame qui représente le Secours populaire. Est-ce que les bénéficiaires de l'aide ont conscience, en fait, finalement, d'être victimes de la malbouffe la plupart du temps, puisqu'ils reçoivent les invendus des supermarchés, qui sont en général une alimentation extrêmement transformée, favorisant le diabète, enfin, etc.
Bien sûr qu'ils sont conscients.
Ils sont conscients.
Ils sont conscients et ils aimeraient avoir autre chose. Contrairement à ce qu'on croit, les gens, ils sont prêts à cuisiner, ils sont prêts à avoir des bons produits. Ils savent que, bon, déjà, ils ont ça et c'est déjà pas mal, mais ils aimeraient avoir autre chose. Hein. Souvent, il faut un peu s'éloigner des lieux communs en disant, de toute façon, ils cuisinent pas, ils savent pas, les légumes, ils savent pas faire et tout. C'est pas vrai. Ils attendent autre chose. Quelles que soient les personnes, les familles, les femmes, les hommes, ils ont envie de bien manger.
Nous, on a été démarchés par les Restos du Cœur il y a déjà 2 ans sur un projet de relocalisation de l'alimentation où maintenant ils nous achètent directement de la viande. Et c'est vrai que leur démarche était très intéressante parce qu'elle était à la fois de donner de la nourriture à des gens qui ont faim, de soutenir aussi l'agriculture locale. Et au-delà de ça, ils nous expliquaient que ça mettait, entre guillemets, du baume au cœur à des gens qui avaient de l'alimentation de qualité et qui pouvaient accueillir des gens et montrer qu'ils pouvaient consommer de l'alimentation de qualité. Et au-delà du bienfait alimentaire, c'était un bienfait un peu psychologique, quoi. Donc c'est quand même chouette.
On va enchaîner sur une... Vas-y, je t'en prie.
Je reviens.
Vous allez pouvoir rester ici,
Sur le truc de Détroit, et c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, les malades étaient moins malades grâce à une alimentation qui était meilleure. Non, mais ça a été montré, démontré. Voilà. Et puis, le film, c'est super bien. Et vous qui êtes tous convaincus que, en fait, c'est bien de manger, eh ben, à vous d'essaimer aussi. Vous en êtes convaincus, mais il faut le dire. Et puis, parlez-en autour de vous. Moi, j'en ai parlé plein à plein de gens ce soir. Bon, je les vois pas. Non, voilà. J'ai peut-être mal parlé, ouais, j'en sais rien, ou ils avaient peut-être autre chose de prévu, mais vraiment, ouais, on est aussi tous porteurs du film, et pas que, et de tout ce que vous avez vu dedans. Enfin, c'est génial, quoi, l'idée de... On mange une carotte qui est dégueulasse, et puis derrière, on va payer le cancer. Ça marque, c'est assez parlant.
Complètement. Alors, je vais demander à Lorraine Prunet de venir, et puis aussi à Boyan, parce que je sais qu'ils sont là tous les deux. Si vous pouviez enchaîner un petit peu sur le problème de la rémunération des agriculteurs. Vous pouvez rester, parce qu'après, il y aura des questions... des échanges avec la salle, donc restez donc.
Alors, Bouyan du GAEC La Belle Terre, maraîcher à la Brianne depuis 10 ans et membre du CA de l'ADR.
Qu'est-ce que c'est que l'ADR, s'il te plaît?
C'est l'association pour le développement et de l'emploi.
L'emploi.
Et agricole et rurale. C'est une association qui s'occupe de différents aspects de la vie rurale, entre autres justement l'installation des jeunes agriculteurs. Et il y a un autre projet, justement le projet de la SSA SEIN, il est porté par l'ADR. Voilà. Rémunération des agriculteurs, les maraîchers ne sont pas forcément ceux qui sont fortement aidés par la PAC. Du coup, c'est un marché assez ouvert. Depuis que j'ai vu un peu toutes sortes de maraîchers, nous, quand on s'est installé, le but c'était de faire vivre la famille. Du coup, on s'est mis un peu contre-cœur sur un mode productiviste, parce que, entre guillemets, pas le choix, parce que si on voulait survivre, on avait des moyens de s'installer, on avait beaucoup de chance sur tous les créneaux commercialisation, on était tous les deux des bacs plus 5 agronomes avec formation. Et malgré ça, entre guillemets, on savait que, vu tous les échecs qu'il y avait autour, qu'il fallait tout mettre dans le panier, ça a marché, mais surtout parce qu'on avait énormément d'aide au personnel de tous les gens qui sont passés. Justement, ça me passait l'esprit et je voulais faire une liste avec tous les gens, tous les stagiaires, tous les volontaires qui ont passé des heures et des heures et des heures à nous aider à monter la ferme. Et sans toute cette aide-là et sans toute la chance qu'on avait avec tous les créneaux qui sont tombés du ciel de commercialisation, jamais on sera là. Et malgré tout ça, on s'est quand même cramé sur les 10 ans. C'est-à-dire, oui, la rémunération juste, elle est loin, loin, loin d'être là pour les maraîchers. C'est pas vivable, entre guillemets. C'est juste parce que nous, entre guillemets, on a réussi à survivre. Je veux pas que ça donne un exemple pour les autres maraîchers, comme quoi, oui, c'est possible. Non, en fait, non. Réalistiquement, c'est pas possible.
Bon. Tu peux donner un ordre de rémunération? Concrètement, tu gagnes combien?
Aujourd'hui, on se paye. Aujourd'hui, oui. On se paye.
Et au début, tu peux peut-être faire.
Aujourd'hui, on se paye le SMIC. Bientôt trois associés qui se payent le SMIC et notre CDI qui gagne un peu plus.
D'accord. Pour combien d'heures de travail? C'est difficile.
Je sais pas. C'est pas si horrible que ça maintenant. On doit être à 45-50 heures semaine avec les enfants à la maison, tous les deux. On a une famille, mais ça c'est vivable, entre guillemets. C'est au début on était plutôt dans les 60-70 et on gagnait 5 euros de l'heure max, voilà, ça c'est le gros max, et c'est normal, c'est pas un truc exceptionnel, c'est normal, et la plupart après 4-5 ans ils se sont cramés. Ils ont cassé le marché parce qu'ils avaient cessé de survivre. Ils ont bradé leurs légumes sur le marché. Ils ont cassé les prix de tous les autres. Et en même temps, ils se sont cramés eux. Ils arrêtent. Ça veut dire que on est en train de cramer toute une génération de gens qui sont hyper motivés et qui ont envie de donner énormément d'énergie dans cette démarche-là, parce que c'est pas rentable, tout simplement. Et nous, tout ce qu'on fait, entre guillemets, tous les compromis qu'on doit faire pour rester rentable, bah, c'est soit au détriment de l'environnement, parce qu'on aimerait bien rajouter plus de matière organique, sauf qu'on n'a pas de temps, on en met. Mais tous les investissements qu'on fait en plus, ça, c'est l'agriculteur qui le paye. Ce n'est pas le produit qui le paye, c'est du plus, c'est de l'investissement en plus. Voilà. Et bon, après, il y a une certaine fierté qui vient avec, qu'on n'est pas aidé, mais... L'aide via le crédit d'impôt bio, c'est pour nous, c'est 4500 euros par an. C'est super important, c'est énorme. C'est des trucs, voilà, et c'est ridicule comparé aux trucs de la PAC ou aux aides PAC. Et ça veut dire que si je me retrouvais dans la situation d'un éleveur, franchement, ça me fait mal au cœur pour eux, entre guillemets, parce qu'ils bossent comme des fous et on leur prend, entre guillemets, leur dignité en disant, bah, de toute manière, la moitié de ce que tu gagnes, c'est pas toi qui le gagne. Et ça, je trouve ça assez triste. Mm-hmm. C'est-à-dire que normalement, le prix, il devrait être beaucoup plus élevé. Et comme Eric l'a dit, mm-hmm. Aujourd'hui, on n'est pas dans un monde où le prix des produits, il est payé par le consommateur.
Lorraine, tu peux te présenter. Est-ce que tu peux donner peut-être une vision relativement large, en fait, des problèmes posés, peut-être des différences peut-être importantes de rémunération en fonction du type d'agriculture pratiquée, des régions aussi, enfin, tout ce que tu en sais, en fait. Je pense que le problème est des choses qui sont communes aux agriculteurs et des choses qui sont spécifiques.
Oui, après, on peut éclairer à travers ce qui se passe dans le 04. Alors, je suis Lorraine Prunier, j'ai des chèvres laitières. Je suis sur la hauteur de Fort-Calquier, là-bas, sous les Mours. Vous aurez peut-être déjà vu les chèvres se promener. Et j'ai différents mandats syndicaux. Et je suis élue à la Chambre aussi. Enfin, je fais deux, trois trucs comme ça. Et puis, par rapport aux revenus, il y a plein de portes d'entrée, en fait. On pourrait parler de la politique agricole. Là, ça a été pas mal évoqué. C'est une porte d'entrée. On peut aussi parler de ce qu'on est là, je pense, pour illustrer. On a un certain nombre d'agriculteurs, là, paysans, là, dans le coin. Et ce que je vois aussi, c'est qu'on a beaucoup choisi, sauf si je me trompe, d'être sur des circuits courts. On a choisi d'être sur des circuits courts. J'ai pas envie ce soir, là, dans mon explication, de l'opposer aux circuits longs, parce qu'aujourd'hui, il y a des bidules qu'il va falloir continuer à alimenter. Des circuits longs, il en faut. Et en revanche, je reste assez persuadée qu'on est dans le 04, on est sur du parcellaire qui est assez petit, c'est pas des très grosses fermes, en moyenne, les surfaces. Et ce qui fait que si on veut se tirer un revenu, et ben en fait, la contrainte, c'est d'aller vendre en direct. C'est super de vendre en direct. Moi, après-demain matin, je vais au marché, c'est super. J'ai un retour direct des gens qui vont me dire que dans l'ensemble, les fromages sont bons, c'est gratifiant que je vais me promener en garde dans les Mours avec mes chèvres, les gens me disent « Ah ben c'est super ce que vous faites, c'est super ». Ça prend un temps fou, mais c'est super. Et c'est ça qui me fait lever tous les matins. Mais on a aussi fait ce choix-là pour qu'il y ait un minimum de ce qu'on produit qui soit capté par des intermédiaires. Mais du coup, ça a souvent un coût en termes de temps. C'est-à-dire que d'un coup, notre taux horaire... hebdomadaire, journalier, comme vous voudrez, il augmente. Et ça, c'est une porte d'entrée. C'est sûr qu'effectivement, en filière courte, et on a aussi la chance probablement d'être sur un territoire qui est relativement dynamique et sensible à ça, et avec des possibilités de vendre en direct sur des circuits courts. Mais encore une fois, c'est pas simple et c'est pas le cas de tout le monde. On a des régions en France où on n'a pas du tout ça. parce qu'on est sur des beaucoup plus gros parcellaires, on sort des beaucoup plus grosses quantités. Et donc, en fait, forcément, on va investir des filières plus longues pour aller vendre. Et ces filières-là, effectivement, elles se sont structurées, elles ont évolué. Il y a eu des coopératives, et puis ces coopératives sont devenues de moins en moins coopératives, et puis il y a eu de plus en plus de valeurs de prélevé. Aujourd'hui, il y a peut-être, je sais pas... chiffre très précis, mais je dirais qu'il y a 25 ans en arrière, on disait qu'on payait 1 aux paysans et qu'on retrouvait, c'était vendu 5 à la sortie. Aujourd'hui, on est passé sur un rapport de 1 à 20. Mais on est toujours à 1 au niveau du paysan. Et ça, ben, c'est douloureux. C'est douloureux. Et il y en a, du coup, pour s'en sortir, ben, ils n'ont pas d'autre chose que de faire des quantités parce qu'on n'arrive pas à modifier un schéma, à s'endetter parce qu'il faut sortir, il faut avoir du rendement. Alors, je n'ai pas forcément envie de tous les défendre parce que je pense que dans le tas, il y en a qui pourraient certainement faire autrement. Mais il y en a aussi, clairement, qui sont enfermés dans un système. Et pieds et poings liés, je vais vous dire, quand tous les matins, vous devez penser à votre banquier en vous levant, moi, ça ne me fait pas rêver. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire autrement. Mais voilà, je sais aussi qu'il y en a qui n'ont pas eu ce choix-là ou qui sont partis dans un truc tel qu'ils ne peuvent pas s'en sortir aujourd'hui. Et là où c'est dommageable, c'est qu'on a une politique agricole commune qui mobilise des centaines de millions et que... des milliards, voilà. Et qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire levier pour que cette politique, elle oriente dans un premier temps un modèle agricole et qu'au surplus, évidemment, elle soit rémunératrice pour les paysans. Parce que ce que disait Boyan, effectivement, il fait partie d'une catégorie, les maraîchers qui sont très peu aidés, mais où on arrive à peu près, je vais dire, à sortir de la valeur sur du petit maraîchage diversifié tel qu'ils le font. Effectivement, sur l'élevage, on y arrive moins. Alors après, on peut accepter que, effectivement, la politique agricole prenne le relais et vienne apporter ce complément de revenus. Je veux dire, ça peut être acceptable. Moi, je pense que je peux vivre avec ça. Mais aujourd'hui, la PAC, ça pourrait être un outil formidable pour tout la transition écologique, pour tous les exemples qui sont illustrés dans ce film. Et en fait, clairement, c'est pas l'orientation que ça prend. On arrive à l'orée d'une nouvelle programmation PAC qui devrait... C'est souvent des programmations de 5 ans, 6 ans, parce que souvent ça rip, qui devraient démarrer en 2027. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a à nouveau pas l'intention d'en faire plus un levier pour la transition écologique, pour plus de revenus paysans, pour une alimentation de plus de qualité, avec moins d'intrants, avec tout ce que vous voulez. Voilà. Et ça, c'est assez désolant.
Je pensais que le professeur en parle, c'est par rapport au suicide. Parce que là, à un moment donné, elle a parlé, les gens n'étaient pas bien. Et là, ce que dit Lorraine, ben, en fait, voilà, les gens qui sont acculés, et qui ne peuvent plus payer, qui pensent plus aux banquiers qu'à aller travailler. Et puis un jour, ben, voilà. Et il y a quand même pratiquement un suicide par jour en France. Donc, ça, chez les agriculteurs. Hein, chez les agriculteurs. Donc, ça, c'est aussi à prendre en compte. Alors, bon, heureusement, alors, malheureusement, il y en a un peu des bio, mais c'est surtout des conventionnels. Mais voilà, même dans les bio, il y en a qui sont au pied du mur et ils ne savent plus comment faire. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais ça fait partie. Mais enfin, là, il y a quand même vraiment beaucoup de choses. Il faudrait le revoir au moins 4 fois, ce film.
Ouais, ça va dans la même direction que quelque chose que j'ai oublié de dire. Moi, nous, au sein de la ferme, on doit faire des compromis. Justement, comme il a dit, oui, lui, il met du limatisé, des trucs contre les limaces. Parce que voilà, il ne peut pas vraiment faire différent. Il y a plein de choix comme ça qu'on fait au quotidien en tant qu'agriculteur. Que oui, on aimerait bien avoir le temps de faire différemment ou d'avoir l'énergie de faire différemment, mais on ne l'a pas. Et ça, ce n'est pas unique au bio qui se prennent ces réflexions-là. C'est tout. Il y a plein d'agriculteurs, même des conventionnels, qui ont exactement les mêmes intentions, mais qui sont pris dans le rouleau que, bah oui, non, mais moi, je veux survivre, je ne peux pas penser à la petite limace. Je suis désolé, c'est une espèce de survie. Et pour moi, il faut aussi un peu arrêter de juger et essayer de voir okay, où est-ce qu'on peut avancer et qu'est-ce qu'il faut pour avancer. Parce que je vois beaucoup de bashing sur les pesticides. Bah, le gars, il a hérité de sa ferme, de son père, il a tous ses matériels sous la main. S'il voudra changer, Bah, ça lui coûte, je sais pas, 150, 200 000. Il n'y a personne qui lui paye. Et ce n'est pas parce qu'après, il produit en bio qu'il fait 5 % de plus et de bénéfices et 20 % moins de récolte que ça va lui payer ça. Il n'y a personne qui lui finance le changement, la transition. Sauf, justement, comme tu as dit, ça devrait être une vraie volonté politique, mais il faut arrêter de juger ceux qui sont juste pris dans le moulin et qui bossent 60-70 heures par jour. Et ça fait beaucoup. Hein, ça. Voilà. Ouais.
Bon, tu voulais donc insister sur le fait que la transition vers une agriculture respectueuse du vivant, ça doit être accompagné et que les individus ne peuvent pas toujours prendre ça en charge, que parfois c'est impossible. Hein.
C'est ce que je disais, l'aide au métier, ben moi j'ai pu en bénéficier, j'étais professionnel, et il y a 25 ans, ben, j'ai eu de la reconversion, la conversion, et après j'ai bénéficié de l'aide au métier.
Oui, puisque moi je suis installé depuis 40... Je suis installé... Ah oui. C'est là que ça m'a... Pourtant, tout à l'heure, ça marchait. Je suis installé depuis 44 ans et en fait, j'ai bénéficié de l'aide à la conversion, passé en agriculture biologique, et après de l'aide au maintien. Et donc, ça m'a permis de trouver, d'entre-temps, donc l'aide au maintien, c'était pendant 5 ans, donc ça m'a permis de trouver des marchés, de créer univers paysan, de créer des filières. Aujourd'hui, on essaie 3 ans, la conversion, 3 ans, et puis après, tu te débrouilles. Et ça, ce n'est pas évident. Voilà, mais ça, c'est la volonté politique, PACA. Voilà, l'Occitanie, je vous dis, c'est différent. Alors, Rhône-Alpes, je ne sais pas, Auvergne, je ne sais pas. Voilà.
Et Lorraine ?
Non, mais sur le revenu, on pourrait dire plein de choses. C'est qu'aujourd'hui, il y a aussi une entrée qui est l'installation et la transmission des fermes, par exemple. Si on prend encore l'exemple d'ici, que du coup vous connaissez tous et toutes, vous voyez bien, on voit bien que le prix de l'immobilier a beaucoup monté. On se retrouve avec des fermes qui sont bien souvent grevées de biens immobiliers, divers bâtiments qui ont pris beaucoup de valeur. Et au moment d'une transmission, ces biens, s'ils sont à la valeur du marché, en fait là, typiquement avec l'espèce de luberonisation qu'on peut connaître ici, on va se retrouver en face de fermes qui vont être intransmissibles parce que si vous devez racheter quelque chose qui vaut 600 ou 700 000 euros quand vous êtes à un SMIC mensuel, je sais pas, je vous laisse faire le plan de financement. Moi j'en ai fait plein dans ma vie, mais je suis à peu près sûre d'un truc, c'est que ça passe pas, quoi. Et c'était évoqué, le fait que de dire que c'était un bien commun. On pourrait aussi penser que... Alors, il y a plein de manières. Hein, on ne va pas tout évoquer toutes les pistes possibles, mais de se dire que ce bâti, il pourrait être un peu, en quelque sorte, hors marché. C'est-à-dire il pourrait avoir une cote agricole et pas une cote plus générale, celle qu'on retrouve sur le marché tous les jours, pour permettre cette transmission. On est à l'aube, ça fait déjà quelques temps, j'ai l'impression, mais en tout cas, voilà, on est vraiment à un moment où il y a une grosse partie, quasiment 50% de la population agricole qui peut partir à la retraite d'ici à 10 ans. On a un vrai enjeu. On a un vrai enjeu de transmission et de renouvellement de génération. Donc il y a encore là aussi des leviers fonciers, beaucoup de choses à envisager. On a eu une loi agricole il y a un an et demi qui n'a absolument pas porté ses fruits et en tout cas pas du tout légiféré sur tous ces problèmes qui nous occupent en ce moment.
Ouais, c'est... Alors, il y a une dame... Alors, oui, j'entends. Je voudrais maintenant qu'on enchaîne sur la dernière question. Qui est donc celle de la sécurité sociale de l'alimentation. En quoi est-ce qu'elle est un levier, en fait, pour à la fois permettre une rémunération correcte aux agriculteurs et à toute la population de bénéficier d'une alimentation saine. Cette sécurité sociale de l'alimentation, telle qu'elle a été théorisée au départ par Bernard Friot, était conçue comme étant une nouvelle branche de la sécurité sociale, à partir du moment où, en fait, la santé, elle est assurée aussi par un environnement qui n'est pas un environnement pollué, une alimentation de qualité, c'est ce qu'on voit dans le film, hein, c'est-à-dire que l'épidémie de cancer, elle vient de quelque part. Et donc, agir massivement sur l'alimentation, c'est aussi faire moins de dépenses de santé à un niveau plus large, à un niveau national, européen, etc. Alors, les expériences qui ont lieu à travers la France de sécurité sociale d'alimentation aujourd'hui, elles se font en fait sur le plan local. Mais ceci n'empêche pas en fait cette formule de sécurité sociale d'alimentation petit à petit de s'expérimenter et peut-être d'être pensée pour plus tard à un niveau beaucoup plus important, au niveau national, hein, bien évidemment.
C'était donc la première partie de la restitution du débat autour du film « Leur chant du cœur » à Fort-Calquier le lundi 24 novembre. On écoutera la suite en une prochaine séance, probablement la semaine prochaine. Qui est accompagné en intro et à la fin est de René Aubry. Radio Zinzine, mais l'enregistrement a été fait sur place, notamment par Xavier Clessens. Aux personnes qui ont bien voulu nous passer l'enregistrement pour qu'on puisse le restituer au bénéfice de tout le monde. À bientôt.